Donc ce soir, Michel Buffenoir va nous parler de l'éthylène, point d'interrogation, c'est quoi ? Michel Buffenoir est né en 1943, il est diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Lille. Il a commencé comme professeur de physique chimie, et puis ensuite il est devenu ingénieur de conception. Il a rejoint Technip en 1995. Chez Technip, il est vice-président de la ligne de produits éthylène et ses responsabilités couvrent la direction des activités éthylène, le développement du marché, l'application et la coordination des nouvelles technologies réalisées dans les différentes entités du groupe. En plus de sa connaissance de l'industrie de l'éthylène, il a également dirigé des projets en pétrole et en gaz, ainsi qu'en industrie pharmaceutique. Et cette expérience a été obtenue en grande partie à l'étranger, des réalisations aux États-Unis, en Iran, Japon et Asie du Sud-Est, ainsi qu'en Europe de l'Ouest. Donc je donne la parole à Michel Buffenoir pour une cinquantaine de minutes, puis je reviendrai, comme je veux profiter de la conférence, je vais aller la suivre parmi vous, je reviendrai pour la séance des questions. Merci.
Merci d'être venu ce soir pour écouter ce qu'on peut dire sous ce titre un petit peu rébarbatif, l'éthylène c'est quoi ? Dans cette période de solde, on aurait peut-être dû mettre un titre plus attirant. Mais je vais essayer quand même de vous intéresser, je vais essayer de vous surprendre, parce que vous allez voir que finalement vous êtes tous plus ou moins atteints par de l'éthylène. Alors la société Technip réalise en ce moment ce qu'on appelle les usines. J'emploierai assez souvent le mot unité, c'est la même chose. Les plus grosses usines d'éthylène au monde. Alors en français, il y a quelque temps, on a voulu traduire le mot qui s'appelle steam cracker, c'est-à-dire cracker avec de la vapeur. On a appelé ça vapocraquage en français. Donc Technip réalise les plus gros éthylènes steam cracker du monde. Ne vous inquiétez pas, là c'est pas un virus. Ça ressemble à une pomme, on y reviendra. Mais l'éthylène, c'est quoi ? En chimie, souvenez-vous, il y a deux atomes de carbone et quatre atomes d'hydrogène. Mais écoutez, ce soir, on a déjà fait une grande partie du chemin, on a presque fini, mais je vais vous en dire quand même un petit peu plus. Alors, dans le monde entier, chaque année, on construit des usines d'éthylène. Là, vous voyez un chiffre, vous le voyez assez mal, il y a marqué 3 à 5 milliards d'euros par an d'investissement. C'est un petit peu dépassé, tout augmente, malheureusement. Cette année, nous pensons qu'il va y avoir entre 4 et 6 milliards d'investissements dans le monde, milliards d'euros bien sûr, pour construire ces unités d'éthylène dans le monde. La production mondiale, 125 millions de tonnes par an en 2004, et ça continue d'augmenter. Ça fait quand même beaucoup, 125 millions de tonnes. C'est le produit de base, alors je ne les ai pas comptés, vous ne les avez pas comptés non plus, mais regardez, on s'en sert tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous connaissez les emballages, en voilà un. Vous connaissez la peinture. Vous voyez bien les emballages qu'on donne dans les supermarchés, dans les restaurants. Vous roulez dessus. On s'en sert tous les jours, disais-je. C'est le produit de base pour une infinité de médicaments. Il n'y a aucun caractère de publicité pour aucune marque, hein. C'est juste pour donner quelques exemples. Aussi bien pour les jouets que pour la réalité. Ah, celui-là est un de mes favoris. Je voudrais bien m'en servir tous les jours aussi. Là, on s'en sert tous les jours. Je fais remarquer en particulier celui-là, hein. Ah. On y reviendra tout à l'heure. On s'en sert aussi tous les jours, on en utilise, on en mange tous les jours. Il n'y a que 5 sociétés au monde qui savent faire ce qu'on appelle de l'éthylène. La française qui nous intéresse, qui s'appelle évidemment Technip, 3 américains et un allemand. Mais retenons le nom de Technip, en particulier en 2003, où nous avons acquis presque la moitié des usines qui ont été faites en cette année. Vous connaissez les 10 plastiques les plus utilisés dans le monde. Le polyéthylène, vous connaissez le mot. Polyéthylène, des emballages. polypropylène, les pare-chocs, les tableaux de bord. Polystyrène, tout ce qui sert à faire de l'isolation, ou ce qui sert à faire les petits verres dont on sert quelquefois. Polyuréthane, les peintures. PVC, chlorure de polyvinyle. Les gouttières, toutes les canalisations d'eau. Polyester, les sous-vêtements, les parachutes. Nylon, les sous-vêtements, les parachutes. Kevlar, on s'en sert pas tous les jours. Des plastiques à très haute résistance, des gilets pare-balles. Perspex, ce sont ces grandes plaques de plastique qui recouvrent les publicités dans les rues. Et Teflon, les veines artificielles. Tous à partir d'une unité d'éthylène. Encore une fois, on voit une pomme, je m'expliquerai. J'ai été professeur, on va pas en parler beaucoup. Il y a beaucoup de réactions chimiques qui se passent dans nos unités. Vous avez entendu les noms. Il faut retenir la première, polymérisation, qui permet de faire ces polymères. La conférence d'hier parlait beaucoup des polymères. Ce sont en général tous ces produits plastiques. Je rappelle toutefois que nous parlons ici d'industrie chimique. Il y a des polymères naturels. Pour moi, si j'avais recommencé ma carrière, je repartirais certainement dans l'étude d'un polymère naturel extraordinaire qui est la toile d'araignée. On n'a toujours pas encore réussi à en faire une synthèse, à l'approcher, mais ça, pour moi, c'est un des plus beaux polymères. Bien, les autres, halogénation, alkylation, je passe là-dessus. On n'est pas là pour faire un cours. On s'arrête un petit peu sur le dernier quand même. C'est aussi un agent mûrisseur. On y reviendra. Bon, ça c'est pour ceux qui voudraient vraiment être sûrs qu'ils n'ont pas loupé une des réactions, une des formules. Vous retrouverez ça sur l'internet. On part plutôt de l'unité qui est ici. C'est celle-là, ça s'appelle un cracker ou un vapocracker. Et à partir de cette unité, voilà tous les noms de produits qu'on en dérive. Voilà toutes les agitations qu'on en fait dans les usines chimiques. Et voilà tous les produits que vous reconnaissez. La bouteille, les peintures, encore les peintures, les isolants, etc., les pneus, etc., etc. Tout ça à partir d'une unité d'éthylène. On va le montrer sous une forme plus jolie. C'est un peu plus joli. Hein. On part toujours de cette fameuse unité de cracking et puis on en fait tout un arbre, toute une arborescence de produits. Il y a une petite correction à faire sur cette photo. Elle montre ici qu'on part de pétrole. C'est en partie vrai, mais on peut partir aussi de gaz naturel, d'un des composés qui se trouve dans le gaz naturel, qui s'appelle soit l'éthane, soit le propane. Vous le connaissez, le propane, c'est ce qu'on met dans les gaz de pétrole liquéfiés, dans les GPL, ce qu'on trouve dans les petites bonbonnes qu'on emmène dans les campings quelquefois. Donc voilà une autre formule pour représenter tout ce qui vient d'une unité de vapocraquage, tout ce qui vient d'une unité dite d'éthylène. Alors les dérivés de l'éthylène, eh bien en majeure partie, c'est ce fameux polyéthylène qui fait presque 60% de tout ce qui va sortir de ces usines. Les autres, ben, il y en a quelques-uns que vous connaissez. Les oxydes, les glycols par exemple, viennent aussi de l'unité d'éthylène, etc. Et dans les polyéthylènes, on en considère deux grandes familles, ceux qui sont dits les low density et les hautes densités. J'y reviendrai tout à l'heure. J'ai dit que l'éthylène, c'était deux atomes de carbone et quatre atomes d'hydrogène. Évidemment, elle est là, elle est un petit peu petite. Je la fais tourner, je sais qu'on pourrait la voir de plus près. Les deux globules noirs, c'est le carbone, et puis les quatre blancs, c'est l'hydrogène. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au milieu, il y a comme deux espèces de bras. C'est ça qui lui donne sa grande réactivité. Et si on regarde bien ici sur cette molécule de polyéthylène qui a été grossie des milliards de fois, la grosse ici, c'est un carbone, celle à côté, c'en est un autre, ça fait C2, et puis 1, 2, 3, 4, hydrogène. multiplié des milliards de fois, vous avez un sac en plastique. Des milliards de fois. Pour que ça tienne ensemble, il y a des espèces de chaînes, là. On verra ça un petit peu plus tard. Ça, c'est la chimie dite des polymères. Alors évidemment, comme vous êtes déjà un peu spécialiste, vous reconnaîtrez facilement les différences ici entre celui qu'on appelle le haute densité, le linéaire et le basse densité sont des variétés plus ou moins résistantes, plus ou moins chères de polyéthylène. On ne va pas rentrer dans les détails. D'abord, ce n'est pas mon métier, c'est un autre métier. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éthylène ? On a pensé longtemps, et quand j'ai fait mes études moi-même, il y a déjà longtemps, que c'était un produit qui n'était pas naturel, qui n'était que synthétique. En 1991, on a découvert que les fruits et les légumes produisaient de l'éthylène. C'est extrêmement important, on s'y étendra tout à l'heure. C'est une hormone gazeuse qui est produite en minuscule quantité, bien sûr, par certains fruits et légumes. Moi, j'avais fait toutes mes études en disant, c'est dommage, mais l'éthylène, on n'arrive pas à le trouver dans la nature. Et puis, j'ai eu cette révélation, ce qui m'a permis de continuer un petit peu, d'ailleurs, dans le métier. Alors, à l'origine, c'est un gaz qui a été découvert en 1777. 1777, Louis XV ou Louis XVI ? 1777, Louis XVI. À Amsterdam, alors j'espère que mes amis bataves ne m'en voudront pas, il faut avoir quand même un esprit un peu étrange pour chauffer du vin avec de l'acide sulfurique. Et ils ont découvert un produit qui se dégageait, qu'ils ont appelé le gaz hydrogéné, carboné, huileux. Ça devait pas être terrible. Alors on a quand même donné un autre nom, on l'a appelé plus facilement la liqueur des Hollandais. Donc c'était à la fin du XVIIIe siècle. C'est la base de toute la pétrochimie aujourd'hui. Union Carbide aux États-Unis, Standard Oil, IG Farben en Allemagne, ICI en Angleterre l'ont tous développé à partir des années 20, des années 30, et ça a été vraiment le début de la grande période des plastiques dans le monde, surtout par Standard Oil, qui est devenu Esso. Où est-ce qu'on en fait ? Ben, ça a été inventé principalement par les Américains. Donc on en fait énormément aux États-Unis. Vous voyez que sur le total, en 2003, les États-Unis en ont presque le tiers en production. Ensuite, en Asie-Pacifique, ensuite en Europe, Moyen-Orient, Afrique, Europe de l'Est, Amérique du Sud, pour le reste. Alors il y a quelque chose d'intéressant à voir là. Les États-Unis avec le Canada, mettons 300 et quelques millions de personnes, 35 millions de tonnes, ne faites pas le calcul, ça fait à peu près 110 kilos d'éthylène par habitant et par an, en consommation, à peu près. À peu près. Si on regarde celui d'en dessous, l'Asie-Pacifique, là on a 3 milliards d'habitants et on a 29 millions de tonnes, un petit peu moins qu'aux États-Unis. Ça fait un petit peu plus de 10 kilos par habitant et par an. Inutile de vous dire que le développement attendu de notre industrie se trouve évidemment ici. Ceci étant, si l'Asie-Pacifique, avec 3 milliards d'habitants, consommait autant d'éthylène qu'aux États-Unis, nous n'aurions plus assez ni de pétrole ni de gaz dans le monde pour fournir. Donc ça nous laisse quand même des perspectives. Là, je m'adresse aux jeunes ingénieurs qui voudraient nous rejoindre. Il y a de la perspective. En Europe, les Allemands, les Hollandais, les Français, et puis un peu au Royaume-Uni, Italie, en Belgique et l'Espagne qui en produisent de plus en plus. Alors inutile de vous souligner que, bien sûr, comme c'est une industrie qui a été principalement inventée aux États-Unis, les Américains, les grosses sociétés américaines, les multinationales, restent relativement les leaders. Pour autant, on connaît ExxonMobil, Shell, BP, Chevron Phillips. On connaît un petit peu moins Dow, qui est quand même un énorme pétrochimiste américain, qui est de loin encore le premier producteur. Il faut voir des nouveaux pays Évidemment, l'Arabie Saoudite, avec les énormes réserves d'hydrocarbures, qui commence à s'intéresser à ce produit, puisque vendre le pétrole, c'est très bien, ça coûte X dollars la tonne. Vendre du produit fini, ça coûte 10X ou 20X dollars la tonne, donc on fait beaucoup plus d'argent. Et puis, on a quand même celui-ci, en France, qui se trouve pas trop mal. Et bien sûr, dans le golfe Persique, on commence à voir des nouveaux entrants qui, avec l'abondance de leurs ressources naturelles, peuvent en produire non seulement de plus en plus, mais à des prix défiant toute concurrence. On y reviendra. Alors, comment c'est fait ? Ben, c'est fait dans des fours. On les appelle des fours de steam cracking. On les verra tout à l'heure. Ça n'a pas tout à fait la même allure qu'une cuisinière. Chaque four peut en faire jusqu'à 180 000 tonnes par an. On va prendre ce qu'on appelle des hydrocarbures, des dérivés du pétrole. Je m'expliquerai un petit peu plus après. On va les chauffer très 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 fort, très 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 vite, 800 degrés, en un dixième de seconde. Il faut que ces hydrocarbures, bah c'est un peu comme de l'essence, hein, il faut qu'il y ait un petit peu de carbone, un petit peu d'hydrogène. En un dixième de seconde, à 800 degrés, pof, on fait de l'éthylène. C'est pas aussi facile que ça, mais on y reviendra. Et puis, on a découvert que pour contrôler un petit peu ces réactions, il fallait mettre de la vapeur. C'est pour ça que ça s'appelle le steam cracking ou le vapocraquage. Ensuite, quand on est passé dans ces énormes fours, eh ben je dirais c'est presque simple. On a fait l'éthylène, on a fait énormément d'autres choses à côté qu'il va falloir séparer. Donc on va avoir une énorme usine derrière qui va séparer tous les composés qu'on aura fait dans cette réaction chimique très brutale, très violente, 800 et quelques degrés en un dixième de seconde. On a produit beaucoup de choses. On a produit des noms qui vous sont plus ou moins familiers. On y reviendra tout à l'heure. On a fait de l'hydrogène, du méthane, du propylène, du butadiène, ça va faire des caoutchoucs. Propylène, ça va faire le polypropylène, des tapis. Le fuel oil qu'on utilisera comme carburant, on va y revenir. Et on va utiliser les moyens classiques dans l'industrie pétrochimique, de la compression, du refroidissement, de la réfrigération, de la distillation, pour séparer chacun de ces produits. Alors, quand on prend des hydrocarbures, c'est-à-dire des composés qui contiennent carbone et hydrogène en particulier, et qu'on les chauffe si brutalement, que ça soit dans des fours industriels ou que ça soit dans votre chaudière, ben on fait du coq. Ça, c'est un petit peu ennuyeux parce que ce coq, on le verra, finit par se déposer à l'intérieur de nos procédés de réaction et ça bouche. Eh ben, on est quand même au 21e siècle et on a du problème, on a des problèmes avec la suie, avec le coq. On y reviendra. Alors voilà dans quoi on fait l'éthylène aujourd'hui. Ça s'appelle un four. En fait, ça s'appelle plus qu'un four. Il y en a un ici, un deuxième là, un troisième là, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Je voudrais que vous regardiez bien la dimension quand même de ce four. Voilà le monsieur qui arrive. Et voilà ici un petit monsieur qui est en train de faire de la peinture là-haut. Cette partie-là du four fait 25-30 mètres de haut. Et puis au-dessus, on a encore une autre partie qui fait encore une vingtaine de mètres de haut. Chacun de ces fours peut faire à peu près 150 000 à 200 000 tonnes d'éthylène par an. Là, c'est une unité qui est d'une taille raisonnable, qui va faire 1 million de tonnes d'éthylène par an. Puisque j'ai dit qu'on commençait par chauffer très vite, très fort. Alors, comment ça se passe à l'intérieur de ces fours ? Ben, c'est un peu chaud. C'est même très, 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 très chaud. Ça sont des brûleurs qui chauffent les parois à l'intérieur du four. Et à l'intérieur du four, la réaction se passe dans ces grands tuyaux que vous voyez descendre ici. Il y a énormément de tuyaux. La réaction à l'intérieur des tuyaux, comme je l'ai dit, elle est à peu près à 800-850 degrés, mais c'est à l'intérieur. Pour avoir 850 à l'intérieur, il faut chauffer plus fort à l'extérieur, parce que la paroi du tube, elle fait un peu isolant. Donc la paroi du tube, elle est à peu près à 1000-1200 degrés. Mais pour chauffer à 1000-1200 degrés, on ne chauffe pas directement le tube, sinon il se tortillerait comme un spaghetti. On chauffe les parois avec ses brûleurs. Alors là, les températures atteignent 1500, 1600, 1700 degrés. On s'amuse bien. On a chaud. Alors ça, on va se faire une petite démonstration. C'est ce qu'on voit quand on regarde à l'intérieur d'un de ces fours. On voit quand même que c'est chaud. On va essayer de chauffer encore un petit peu plus. Reculez-vous si vous sentez de la chaleur. Vous êtes exposé ici à des températures de flamme qui sont à peu près 1400 degrés. Vous voyez là, non? On voit rien? Ah, ça c'est bête parce que moi je le vois bien sur mon écran. Bon, désolé pour ça, je vous le montrerai en privé. Je ne peux pas tourner l'ordinateur, ça serait un petit peu petit. Ah ben ça c'est bête. Bon. Dommage, peu importe. Voilà des fours qu'on s'est amusé à transporter sur roulette. Vous avez vu la grande série de fours tout à l'heure. Cela, c'est en Arabie Saoudite. Il y avait un chantier de construction et le client, qui est la société saoudienne de pétrochimie, nous a dit « je voudrais bien utiliser mon chantier ». Donc vous voyez ici la taille de la voiture. Donc ça fait bien, comme je l'ai dit, à peu près 15-20 mètres de haut. Et puis au-dessus, on a toute une section encore qui fait une quinzaine de mètres de haut. L'ensemble ici, vous l'avez reconnu tout de suite parce que vous êtes spécialiste maintenant, il y a deux fours là, en voilà un ici, et puis en voilà un autre derrière. Là, ça fait à peu près une vingtaine de mètres de long, une quinzaine de mètres de haut, et 3-4 mètres d'épaisseur. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fours qu'on va amener sur le chantier. C'est là-dedans que se passe la réaction qui va donner de l'éthylène, entre autres. Un ensemble comme ça, ça pèse 2500-3000 tonnes. Alors on peut s'amuser sur nos fours. Vous voyez, on a pris des gens qui voulaient grimper dessus, là, ce qui est formellement interdit. Rassurez-vous, les fours n'étaient pas en marche, ce sont les peintres. Ça, c'est dans le sud de la France, c'est à Schellberg. Bien. Alors, à l'intérieur du four, moi, j'aime bien les sculptures un petit peu modernes. Voilà comment ça se répartit. Le produit qu'on va traiter à base de pétrole va arriver par le haut et puis on va le séparer dans beaucoup de tubes qui vont, eux, être exposés à ces températures énormes dont on a parlé tout à l'heure, aux 1000 degrés. Évidemment, ces tubes sont un petit peu chers. Ils sont faits par peu de sociétés dans le monde, dont une société française qui est spécialisée là-dedans, qui s'appelle Pompé Manoir, qui fait des tubes qui peuvent résister à ces températures-là. Un tube comme ça, un seul, celui-là, qui va faire une dizaine de mètres de haut, il doit coûter à peu près 20 000 euros, le tube. Pour nos fours standards, on peut mettre jusqu'à 200-300 tubes par four. Donc si vous voulez investir, vous viendrez me voir tout à l'heure, on verra ce qu'on peut faire pour vous. Et puis, dans le bas, on est parti du haut, dans le bas, on va redescendre et puis on va remonter pour terminer la réaction. Donc je vous l'ai dit, une quinzaine de mètres de haut, énormément de tubes dans un four, 200, 300, des températures effroyablement élevées et une réaction qui se passe en un dixième de seconde. En un dixième de seconde, on aura transformé ce qu'on aura rentré dans cette unité, je l'ai dit, soit un gaz, soit un dérivé du pétrole, en particulier en éthylène. Alors on va voir comment ça se passe. On va vous montrer à quoi on s'amuse avec nos unités d'éthylène et nos derniers petits jouets. Voilà, ça c'est une unité d'éthylène qui est en Iran, Elle fait toute cette surface. On commence ici par toute une batterie de four. Ça, ça fait 300 mètres de long. Ici, il y a encore 100 mètres. Là, il y a 500 mètres. Voilà, tout ça, c'est une unité d'éthylène. Celle-là, elle est pas mal. Elle fait 1 million de tonnes par an. Et on a vu ce qu'étaient les fours. Voilà toute la batterie de four. Quand on la regarde un petit peu plus avancée, on voit que ça s'est un peu densifié. On a mis pas mal de tuyaux. Puis on a mis des grands équipements là. Tiens, on va s'arrêter sur ces grands équipements. Voilà sous un autre angle. Et on utilise des jouets. Voilà nos jouets. Ça, c'est une grue qui peut lever 3600 tonnes d'un seul coup. Alors, s'il y en a chez vous qui connaissent un petit peu le métier de plateforme sous-marine, 3600 tonnes, ils nous regardent d'un air condescendant parce que eux, ils peuvent lever 7-8 000 tonnes avec leurs grosses barges. Mais sur Terre, c'est pas la même chose. On n'a pas les moyens de levage qu'ils ont sur la mer. 3600 tonnes, c'est ce qu'on fait en ce moment de plus gros comme grue pour lever, pour installer nos équipements. Voilà. Alors avec cette grue-là, on arrive à lever ce qu'on appelle les colonnes, c'est-à-dire nos petits équipements, nos petits jouets qui font la première 800 tonnes, la deuxième 900 tonnes. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette énormissime grue ici, mais il faut d'abord deux très grosses grues pour l'installer. Moyennant quoi, elle va pouvoir lever nos jouets ici, ça fait 100 mètres de haut quand même, d'un seul coup. Voilà, on s'est bien amusé, ça a duré une journée complète. Et voilà le petit engin qu'on a dû lever, vous voyez la taille des bonshommes, c'est quand même des joujoux assez conséquents. Celle-là ne fait que 90 mètres de haut. Voilà d'autres jouets qui rentrent dans la composition d'une unité dite d'éthylène. Ça s'appelle un compresseur, j'y reviendrai tout à l'heure. Celui-là, il est relativement petit. Il doit faire que 30 ou 40 mégawatts. Il a été produit par une société italienne qui est spécialisée dans ce genre de jouets. Je trouve qu'il a une forme intéressante. Il ressemble à un animal préhistorique. Pour ceux qui en voudraient, il doit quand même coûter 10-15 millions d'euros, à peu près, si vous en achetez plusieurs. En voilà un qui est quand même un peu plus conséquent. Avec notre spécialiste dit de machine tournante, celui-là quand même il fait 71 000 kilowatts, et il pèse presque 500 tonnes. Voilà les jouets avec lesquels on joue dans nos unités. Cette machine-là a été construite par un fournisseur allemand bien connu, qui fait d'autres choses que des très gros compresseurs. C'est un des plus gros du monde. Il est parti en Iran. Il a coûté horriblement cher. Bien. Nous sommes dans une université. Vous allez prendre des notes. On va faire un cours très rapidement. Allez. Qu'est-ce que c'est que le steam cracking? Eh bien, c'est de craquer des hydrocarbures qui ont au moins 2 atomes de carbone. Voilà. Alors, on part de l'éthane, vous connaissez le nom, on peut partir du propane, ça c'est des gaz. On peut partir de ce qu'on appelle le nafta, c'est comme une coupe d'essence. Et puis, on peut partir de coupes qui sont encore plus lourdes, de produits qui sont encore plus lourds, qui se rapprochent des gazoles, de plus en plus visqueux, de plus en plus épais. Avec tout ça, on peut faire de l'éthylène. Je vais aller un peu vite parce que je suis pas le prof. Et manifestement, le computer veut faire le prof. Alors la chimie, elle est très simple, il me faut au moins 2 atomes de carbone que vous voyez là. On met un coup de chaleur en 1/10 de seconde et on obtient ce fameux produit qui est l'éthylène. Je vous passe toutes les réactions ici. Ce sont des réactions qui sont extrêmement fugitives en 1/10 millième de seconde ou 1/15 millième de seconde. On les étudie pour savoir exactement comment ça va se produire et ils se recombinent tous pour donner le produit qu'on veut. Alors on a quelques problèmes. On fait ce qu'on appelle le CO, vous connaissez le nom, c'est le monoxyde de carbone. C'est un peu gênant parce que c'est un peu toxique. On fait du CO2, ça c'est un petit peu moins gênant, on arrive à l'attraper et on l'isole. Et puis malheureusement, toutes ces réactions qui partent des hydrocarbures de la Terre, c'est-à-dire des composés qui contiennent du carbone, ben comme dans votre cheminée, on va faire de la suie, mais on va la faire à l'intérieur de ces gros tubes qu'on a vu, et ça va finir par boucher. Donc ça, c'est un peu ennuyeux, ça fait du coq. On verra comment on l'enlève. Alors, je pensais que dans l'auditoire, il y aurait des gens intéressés dans les réactions. Donc, on en reparlera après. S'il y a des questions, vous êtes tout à fait les bienvenus. Ça nous permet, à partir d'un composé au départ, de calculer combien va faire d'éthylène. Je passe là-dessus, à moins qu'il y ait des questions. Non, très bien. Alors, c'est un procédé d'extrême. C'est très, 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 très chaud, comme je l'ai dit, 1150 degrés. Ça, c'est de la lave, c'est à 800, 900 degrés. On est plus chaud que ça. C'est très, très froid. On descend jusqu'à moins 160. Ça, c'est en Arabie Saoudite. C'est un des équipements, ça s'appelle une vanne. C'est un des équipements. À l'extérieur, il fait 50 degrés. À l'intérieur, il fait moins 100. Donc, l'humidité ambiante se condense sur cet appareil, finit par faire une couche de glace isolante. Il fait 50 degrés à l'extérieur. C'est des très, très, très hautes pressions. On écrabouille à 120 kg. Dans vos pneus, vous avez 3 ou 4 kg. C'est un procédé à des très basses pressions. C'est-à-dire qu'on est presque sous vide. Ah. Voilà. Très, très basse pression. Zut. On arrive presque sous vide. C'est extrêmement puissant. Une usine est plus puissante que le plus gros des porte-avions. C'est extrêmement grand. Une usine normale, maintenant, c'est 4 fois le stade de Bercy minimum. Minimum. C'est très gros. Ça vous fait 175 tonnes à l'heure de ce produit éthylène. C'est de plus en plus gros. Ce qu'on a vu qui était une colonne, ce gros équipement, on pourrait mettre un studio de 38 mètres carrés dedans facilement. Et cependant, bien qu'on en fasse 1 million de tonnes par an, il faut qu'il soit toujours extrêmement pur. 99,95% de pureté au minimum. Au minimum. C'est assez souvent 99. Dangereux, on fait ces composés dont vous avez entendu parler, mais les unités d'éthylène ou de vapocraquage sont extrêmement sécurisées. C'est très rare qu'il y ait des accidents. Très, très rare. Alors, comment Technip le fait? Vous reconnaîtrez ici facilement ce qu'on appelle un bâtiment compresseur, c'est-à-dire là où on a mis les grosses machines dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est quand même assez gros, un bâtiment compresseur. Voilà la taille du bonhomme. Alors, un compresseur, il y en a un ici, un deuxième là et un troisième là. Voilà le même. Avec le bonhomme, il est là. Ceux qui seraient tentés de faire les calculs, vous êtes les bienvenus, nous recrutons du personnel. C'est une très grosse usine qui traite d'énormes quantités de produits. Ils sont extrêmement bien contrôlés, extrêmement bien dépollués. Ça coûte très cher. On y reviendra tout à l'heure. Les métallurgies sont nobles, c'est-à-dire des aciers très haute qualité, du titane, du tantal. Ça prend très longtemps à construire. Si vous en voulez une pour vous, d'abord, il me faudra un grand terrain. Et ça sera pour vous à peu près 4 ans avant que vous puissiez la faire marcher. Ça marche pendant toute l'année, 8000 heures par an, à peu près pendant 6 à 7 ans sans jamais s'arrêter complètement. C'est un produit nécessaire, incontournable. C'est la base de toute la pétrochimie. Combien ça coûte? Où est-ce qu'on en fait? Voilà. Alors, ils deviennent de plus en plus gros. Vous voyez la capacité, 1 400 000 tonnes par an, et on va aller plus gros. Le 9e complexe, c'est en Iran. Ras Laffan, c'est au Qatar. Le 10e complexe, c'est en Iran. Yanbu, c'est en Arabie Saoudite. Ça a une connotation Moyen-Orient, c'est évident. C'est là où il y a les réserves de gaz, c'est là où il y a les réserves de pétrole, c'est là où on peut faire les unités qu'ils produisent les moins chères en ce moment. Et les fours qu'on a vus tout à l'heure, ils deviennent de plus en plus gros. Voilà, un four ici, qu'on couvrait déjà gros, qui fait 140 000 tonnes par an. Eh bien, on fait encore plus gros. On va arriver presque à 200 000 tonnes par an pour un seul four. Alors, pourquoi on fait des vapocrackers ou des steam crackers de plus en plus gros? Eh bien, parce que plus il est gros, moins il coûte cher à la tonne produite. Moi, j'avais commencé, on faisait des steam crackers qu'on trouvait gros à 500 000 tonnes par an. Aujourd'hui, on est en train d'en faire à presque 2 millions de tonnes par an. Plus il devient gros en capacité, moins il est cher à la tonne. Ça, c'est pour ceux qui seraient intéressés à en faire un dans leur jardin. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? On va revenir. J'ai mis là-dessus qu'il y avait des, ce qu'on appelle des vapocrackers sur le nafta, c'est-à-dire sur un liquide, et puis des vapocrackers sur du gaz, un petit peu plus simple. Et puis on a montré ici que vers 1 400 000 tonnes par an, on avait une limitation. Pourquoi on a une limitation? Ben, c'est devenu tellement gros qu'on a des machines qui n'arrivent plus à suivre. Pourquoi les machines n'arrivent plus à suivre? Parce qu'en général, les gros compresseurs qu'on a vus tout à l'heure sont des machines qu'on dit machines tournantes. Comme elles tournent, elles ont des vitesses en bout de roues ou d'hélices, un peu comme les vitesses d'avion, qui deviennent excessives. Pourquoi on n'a jamais pu faire des hélices d'avion de 4 mètres de haut? Parce qu'en bout, la vitesse réelle devient telle que les matériaux ne résistent pas. Donc on est limité par la taille de ce qu'on appelle les machines tournantes. Donc en ce moment, on a beaucoup de mal à faire ce qu'on appelle des vapocrackers au-delà d'à peu près 1 500 000 tonnes par an, en principe. Mais on a trouvé d'autres idées, mais ça c'est des secrets. On va arriver à faire 2 millions de tonnes par an facilement. Alors, moi j'ai de la chance parce que comme je fais de l'éthylène depuis pas mal de temps, eh ben il est en augmentation constante depuis que j'en fais. Depuis les années 60, ça a toujours augmenté. La demande a continuellement augmenté. Donc j'attire ici les gens plus jeunes et moins jeunes. Nous recrutons. Il y a un besoin d'éthylène dans le monde. Vous voyez qu'on en fait en Amérique du Nord, mais ça s'aplatit. On en fait dans l'Europe de l'Ouest, mais ça s'aplatit. On en fait en Asie, beaucoup, ça augmente. Mais le problème de l'Asie, c'est qu'ils ont énormément de monde, mais ils n'ont pas beaucoup de pétrole pour en faire. Alors, où est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va en faire principalement au Moyen-Orient, là où il y a énormément de pétrole et de gaz. Vous voyez que les tendances pour les prochaines années sont bonnes, que les jeunes nous rejoignent. Principalement au Moyen-Orient. Avez-vous bien compris, au Moyen-Orient, de plus en plus, parce qu'il y a du pétrole, parce qu'il y a du gaz, parce qu'il y a du terrain, parce que c'est là que c'est pas encore trop cher à construire, encore que. On va y revenir. Et on sait très bien, dans les pays du Moyen-Orient, où est-ce qu'on va en construire dans les prochaines années. Vous voyez qu'en particulier en Saoudi-Arabie, au Qatar, en Iran, là où il y a des énormes réserves de gaz et de pétrole. Bien, on ne peut pas faire une conférence industrielle aujourd'hui sans se rapprocher de l'écologie, que nous pratiquons d'ailleurs depuis très longtemps, parce que je crois que je boirais volontiers ce qu'on appelle les eaux usées qui sortent d'une de mes unités, plutôt que certaines sources, tellement c'est traité. Nous allons voir d'autres grands producteurs d'éthylène. Et là, je voudrais vous surprendre. L'éthylène, fait industriellement, l'éthylène est fait naturellement. Les produits de combustion, la fumée, depuis des millénaires, mais on ne le savait pas. On en a découvert il n'y a pas longtemps avec l'observatoire du CNRS à Meudon sur la planète Neptune. Ça m'inquiète pas trop, moi, parce que ça fait quand même des milliards et des milliards de kilomètres, donc ça fait beaucoup de tuyaux pour l'amener. Et en plus, il est à moins 100 et quelques là-bas. Mais il y en a sur la planète Neptune. On verra ça dans 5000 ans. Ah, ça c'est peut-être un peu plus surprenant. Il y en a dans tous les fruits, dans les légumes et dans les fleurs. Comment on les trouve dans les fruits et les légumes? Ne me demandez pas un cours de biologie, il faudra vous adresser aux pharmaciens de service, à partir de la méthionine des plantes. Ça, c'est tout nouveau, ça a été découvert il y a quelques années, et c'est quand même assez important, on va voir pourquoi. Quels sont les effets? Les effets de l'éthylène naturel activent la germination, c'est pour ça que les fruits mûrissent, c'est pour ça, malheureusement, que les fruits pourrissent. Et ça a des actions bénéfiques sur ce mûrissement et variables selon les végétaux. Ah, alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Sert de signal d'alarme, j'y reviendrai. Regardez. La pomme de terre produit de l'éthylène, très très peu. Le concombre un petit peu plus. La banane, commence à en produire un peu plus. Ah, la pomme, la poire, produisent de l'éthylène naturellement. Vous allez me dire, mais il est en train de divaguer, le pauvre. Pas du tout. Pas du tout. Les anciens le savaient bien, qui plaçaient des pommes à côté des autres fruits qui ne voulaient pas mûrir. Parce que la pomme dégage beaucoup d'éthylène, et l'éthylène sert à mûrir. Et c'est pour ça que beaucoup de gens mélangeaient leurs fruits pour les faire mûrir plus vite. Malheureusement, on n'y pense pas tout le temps. Quelquefois, on laisse les pommes et les autres fruits mûrissent et pourrissent. Regardez les productions, c'est quand même pas négligeable. La pomme, elle en fait avec ce qu'on appelle des parties par million. Ben, elle en fait presque comme un chariot élévateur. Un petit peu moins qu'un moteur, plus qu'une fumée de cigarette. Non seulement les fruits et les légumes en produisent, mais ils sont respectivement plus ou moins sensibles. La pomme, où est-ce qu'elle est ma pomme? Elle est là. Elle fait beaucoup d'éthylène et elle est très sensible. C'est pour ça qu'on a quelquefois du mal à garder les pommes toutes ensemble. C'est pour ça qu'il vaut mieux les séparer, pas les laisser trop proches l'une de l'autre. Elles vont se pourrir mutuellement. C'est quand même plus intéressant quelquefois que de les asperger avec je ne sais quel produit. Là, c'est un produit naturel. Alors, aide au mûrissement, transport, conservation des bananes. Non, je reste à peu près raisonnable. Toutes les bananes mondiales sont récoltées en Amérique centrale, en Afrique. Elles sont prises sur l'arbre verte. Elles sont mises dans des containers de, je ne sais pas, 20 tonnes, 30 tonnes. Et pour le container, on va mettre un petit peu d'éthylène. Parce que le bateau va mettre 3 jours à traverser l'océan, 1 jour de dédouanement, 2 jours de camion, 2 jours de distribution au supermarché local. On calcule la quantité d'éthylène pour qu'arrivée sur le supermarché local, la banane soit bien jaune. Seulement après, elle ne va pas rester longtemps parce qu'elle a pris un petit coup d'éthylène. Les pays nordiques qui n'ont pas le soleil de l'Espagne ou du Maroc, ben ils voudraient bien avoir des tomates aussi. Ils sont en train de se dire que peut-être dans leur serre, un petit peu d'éthylène, on va produire des tomates ou des légumes un petit peu plus rapidement et un petit peu plus en primeur que les pays du Sud. Et les anciens le savaient bien, qui mettaient les pommes à côté des autres fruits pour les faire mûrir. Non, j'ai bien écrit « Autodéfense des arbres ». Alors ça, c'est un scoop. Je l'ai lu dans une revue très, très, très savante. Il y a un biologiste chimiste qui s'est promené en Afrique il y a quelques années et qui aimait bien les girafes. Il a vu des girafes s'approcher des arbres et commençait à brouter les feuilles du haut. Et puis, il y avait des tas d'autres arbres similaires à côté, et la girafe a été goûtée, et elle est partie. Ça l'a intrigué. Marqué, il faut bien s'occuper, hein. Il y a des gens qui ont des intérêts un peu variés. Il a très 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 étudié ce phénomène et s'est aperçu que la première girafe qui va boulotter les feuilles de l'arbre, l'arbre se sent blessé. Il va générer un petit peu plus d'éthylène parce qu'il en génère de lui-même. On l'a vu, tous les fruits et les légumes. L'éthylène va monter avec la sève et va rendre les feuilles un petit peu plus dures d'une part. Et d'autre part, comme il génère un petit peu plus d'éthylène, ça va faire des effluves et l'arbre à côté, il reçoit un peu d'éthylène, il se dit « Oh là là, il y a quelque chose qui se passe », il en renvoie dans ses feuilles à lui. Elles deviennent plus dures. Le temps que la girafe passe du premier arbre au deuxième arbre, il a durci un peu ses feuilles, elles ne sont pas bonnes, la girafe s'en va ailleurs. C'est vrai, vous pouvez le vérifier, il y a une publication qui a été faite là-dessus. L'éthylène est un produit industriel, également naturel, je tenais à le dire, curatif et préventif, avec un grand avenir, on en produit de plus en plus. Alors, en conclusion, notre industrie chimique a depuis longtemps une très mauvaise image. Bon, c'est vrai, n'empêche qu'on en profite quand même, ne serait-ce que dans les médicaments. Jusqu'à il y a 5 ans, la plus mauvaise image était l'industrie nucléaire, elle l'a gardée. Je pense que c'est un peu dommage parce que sinon on serait dans le noir le plus complet. Et tout de suite après le nucléaire, c'était l'industrie chimique. Je ne dirais pas grâce au ciel, il y a une autre industrie qui est venue se mettre entre nous et le nucléaire, c'est le traitement des déchets. Il y a des progrès à faire. Donc l'industrie chimique, bien qu'elle ait une très mauvaise image, s'améliore quand même. N'oublions pas accessoirement que rien qu'en Europe, elle fait travailler je ne sais combien de millions de personnes et le chiffre d'affaires d'il y a 2 ans, c'était 500 milliards d'euros. Quand même. Mais avec l'éthylène, dans lequel je baigne depuis presque 40 ans, l'industrie chimique reste quand même un domaine extrêmement attractif et attirant. Regardez toutes ces jeunes personnes. Elles évoluent sur un tapis en polypropylène qui vient d'un vapocraqueur. Elles ont des collants qui sont probablement en polyester, qui vient d'un vapocraqueur. Elles ont des combinaisons adorables, qui sont en nylon, je ne sais pas quoi, synthétiques, qui viennent d'un vapocraqueur. Elles ont des fards, des shampoings, des make-up, qui viennent aussi en partie de ma grosse unité d'éthylène. Elles jouent avec leurs cerceaux et leurs ballons qui sont en polyéthylène. J'ose espérer toutefois que leur corps à l'intérieur reste bien naturel. Je vous remercie de votre attention et si vous avez quelques questions, je serai heureux d'y répondre. Merci.
Merci beaucoup. Alors, nous passons aux questions. Monsieur, ici. Attendez, on vous donne un micro. Puis une autre ici.
Oui, bonjour. Nous avons vu qu'il fallait de hautes températures pour produire l'éthylène. Quelle est la part d'énergie pour produire une tonne d'éthylène?
Est-ce que je répondrais que c'est un secret, puisque nous sommes dans une situation de concurrence effroyable? Je ne vais pas vous donner le chiffre exact. Je vais vous dire que la majeure partie de l'énergie pour faire de l'éthylène est évidemment consommée dans les fours. Hein, le reste est consommé dans les compresseurs. Mais on récupère énormément de l'énergie qui est produite dans ces fours. Je vous ai montré le bas en vous disant c'est là qu'on fait les réactions. Puis je vous ai dit il y a tout le haut. Le haut, c'est que de la récupération de cette énergie, des flammes, des fumées, qu'on va transformer en vapeur en particulier pour faire tourner les très grosses machines, les compresseurs que nous avons vus. Nous consommons entre 500 et 700 kilowatts à la tonne. Comme on dit aux États-Unis, quote, unquote. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus. C'est assez conséquent, c'est assez considérable, mais nous récupérons beaucoup, beaucoup de cette énergie. Elle se trouve dissipée soit dans les fumées, elle se trouve dissipée dans les circuits monstrueux de ce qu'on appelle l'eau de refroidissement, c'est-à-dire ces rivières qui rentrent dans les usines et qui ressortent.
Monsieur ici.
Oui. Il y a un certain temps, d'autres procédés que simplement chauffer vite et fort, comme l'a dit plusieurs fois Michel Buffenoir, étaient envisagés pour fabriquer de l'éthylène à partir d'hydrocarbures. Est-ce qu'il y a, on peut envisager à terme, d'autres procédés qui seraient concurrents que, par rapport enfin, au procédé actuel qui est donc utilisé par les cinq grandes sociétés mondiales dont a parlé Michel Buffenoir tout à l'heure?
Quand j'ai commencé dans ce business, comme on dit, on m'avait dit, oh, tu sais, le steam cracking, le vapeau cracking, ça touche à sa fin, on va trouver d'autres procédés. Bon, monsieur Michaud a désagréablement noté la date de ma naissance, donc ça fait presque 40 ans que je suis dans le business, et vous voyez qu'il y a encore plein de prospectives, et je le regrette un peu, mais d'un autre côté j'en suis vachement content. On n'a pas encore trouvé d'autres procédés que le steam cracking d'un point de vue économique et rentable. Et pourtant, Dieu sait si on a essayé. On a essayé des lits avec des bains de mercure. On a essayé des arcs électriques qui deviendraient grands comme la pièce. On a essayé d'autres procédés plus ou moins catalytiques, c'est-à-dire avec des conditions moins draconiennes, moins brutales, moins primaires. Et malgré tout, on reste encore dans le bon vieux steam cracking ou vapeau craquage que j'ai connu à mes débuts. La seule chose qui a changé, c'est que j'avais commencé, en partie d'ailleurs avec la personne qui a posé la question, qui savait très bien que je lui répondrais aussi, j'avais commencé dans une des plus grosses unités du monde, à Carlin, en Moselle, pour une très grosse société de l'époque qui s'appelait les Houillères du bassin de Lorraine, qui était devenue CDF Chimie, qui n'existe plus en tant que telle, qui a été repris par Total. Et cette très grosse unité faisait 230 000 tonnes par an d'éthylène. Il y a de ça, malheureusement, monsieur Michaud, presque 40 ans. J'en suis honteux. Cette unité tourne encore, elle produit toujours de l'éthylène. Vous avez vu que les unités aujourd'hui vont monter à 1 400 000 tonnes. Nous étudions 1 700 000 tonnes par an d'éthylène. Donc, pour répondre à votre question, cher monsieur, je crois qu'il y a encore de l'avenir dans ce procédé, certes brutal, mais qu'on continue d'améliorer et qui continue, malgré tout, de faire, je crois, 99% de la production mondiale d'éthylène à 100 et quelques 20 millions de tonnes par an qu'on a vu. Mais je voudrais peut-être tenter les inventeurs, s'il vous plaît, peut-être trouver un procédé un petit peu moins barbare que le steam cracking, pourquoi pas. C'est un des rares procédés qui est peu évolué depuis son invention en 1920-1930, ce qui m'a permis de continuer ma carrière assez longtemps.
Autre question, tout en haut.
Bonsoir. À propos de l'accumulation de carbone dans les tuyaux, pour nettoyer ces tuyaux, est-ce qu'il est nécessaire d'arrêter les fours?
Si vous pouvez parler un tout petit peu plus dans le micro, d'arrêter l'équilibre?
Est-ce qu'il est nécessaire d'arrêter les fours pour nettoyer les tuyaux qui s'encrassent avec le carbone?
Je vois que madame a suivi la présentation. J'ai dit qu'effectivement, nous avions des dépôts de coke ou de suie, c'est-à-dire de charbon, à l'intérieur de ces tubes que nous avons vus sur une des photos. L'ennui, c'est que quand on chauffe si vite et si fort, à 800 et quelques degrés, effectivement, il y a des dépôts, ce qu'on appellerait la calamine dans un pot d'échappement, ce qu'on appelle la suie dans nos cheminées. Donc, selon la charge que nous traitons, c'est-à-dire ce qu'on met dans ces tubes, et selon les températures qu'on va appliquer, parce que mine de rien, entre 830 degrés ou 860 degrés, on a des processus extrêmement différents et on va déposer beaucoup, beaucoup plus de coke à 860 qu'à 830. Et ce coke se dépose à l'intérieur des tubes. Donc effectivement, au bout de 30 jours, 40 jours, on est forcé d'arrêter ce qu'on appelle l'alimentation d'un de ces énormes fours pour enlever ce coq. Alors bien sûr, on n'y va pas avec, avec un marteau et un cure-dent. On y va avec une réaction extrêmement simple. On va injecter de l'air au lieu d'injecter de l'hydrocarbure dans ce four, c'est-à-dire qu'on arrête la charge d'hydrocarbure. On met de l'air et le carbone, c'est-à-dire le charbon plus de l'air, eh ben, va se transformer en CO2 qu'on va récupérer à la sortie. Donc on va brûler ce carbone qui a été déposé à l'intérieur des tubes. Ça prend 2-3 jours. Inutile de vous dire qu'on ne le laisse pas s'échapper à l'atmosphère. On le récupère et on le traite.
Autre question ? Toujours là-haut.
On entend parler tous les jours du gaz russe, du pétrole russe, des oligarches milliardaires russes, et dans les tableaux statistiques, on n'a pas vu beaucoup la Russie, donc on se demande pourquoi ils ne font pas d'éthylène.
C'est une question intéressante qui demande un petit peu de diplomatie pour la réponse. On n'est pas ici pour se battre avec nos amis de Russie. J'essaye de redescendre, je crois que c'est celle-là. Europe de l'Est, confédération ex-soviétique, production ridicule comparée aux ressources de ce pays et comparée à la population de ce pays qui est à peu près équivalente à celle des États-Unis. Pourquoi ? Je vais essayer d'être diplomate, ça ne va pas être facile. Tous les oligarques font beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement, en vendant tout de suite le gaz naturel et le pétrole brut, plutôt qu'en le traitant dans des unités très chères chez eux. Donc ils vendent leur pétrole brut et leur gaz à l'Occident, et ils rachètent tous les dérivés de l'éthylène à l'Occident. C'est aussi simple que ça. Il y a très peu d'investissements dans l'ex-Union soviétique en ce qui concerne la pétrochimie. C'est un peu navrant, ce sont les premières réserves mondiales de pétrole et les deuxièmes, je crois, en gaz, avec des potentiels énormes, mais, je l'ai dit aussi, ça prend 4 ans ou 5 ans à faire une unité d'éthylène, et il faut quand même derrière beaucoup d'autres unités pour transformer en plastique, en peinture, dans tous les produits qu'on a cités. Les oligarques ex-soviétiques font de l'argent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite en vendant le pétrole et le gaz plutôt que d'installer chez eux des unités pétrochimiques. Il y a peu, vraiment peu, de pétrochimie en ex-Union soviétique et en Europe de l'Est. C'est un petit peu déchirant pour une population de 250 à 300 millions de personnes, comme aux États-Unis. Il y en a très très peu. 5 fois moins de production par rapport aux US. Je crois que l'explication est dans l'argent, les roubles, le plus vite possible. Je crois. Et ça n'est pas un énorme axe de développement pour les sociétés comme les nôtres, puisque les investissements pétrochimiques dans les pays ex-Union soviétique sont très très faibles. Tous ces ex-pays produisent d'abord du brut ou du gaz qui vendent immédiatement à l'Occident. On a vu d'ailleurs les derniers problèmes de vente de gaz russe ou de pétrole russe aux anciens États, mais c'est là où ils font de l'argent. On vend donc, les pays arabes en particulier, vendent des dérivés de l'éthylène à la Russie, qui a bien plus de ressources énergétiques et pétrolières qu'eux.
Y a-t-il encore une question ? Alors, attendez, une ici, monsieur d'abord, et puis une ici, et puis on terminera là-dessus. Mais d'abord, voilà.
Puis après vous. Voilà, je voulais dire, je suis venu dans la conférence parce que j'ai pensé au nettoyage à sec, au trichloréthylène, parce que moi j'ai travaillé avec les mains dans le trichloréthylène. Donc c'est un produit qui a évolué. Donc dans tous les supermarchés, il y a le nettoyage à sec. Donc ce produit qui est liquide, qui est refiltré, si vous pouvez nous parler d'où il sort, ce produit.
Oui, là, vous parlez de produits dérivés. Vous avez vu que moi, je fais vraiment de la production de masse. En dessous du million de tonnes, ça devient petit. Pour arriver au triclos, il y a peut-être 7 ou 8 unités encore accessoires. Par contre, votre question est intéressante parce que qui dit triclos, trichloréthylène, dit également chlore, qui n'a pas une réputation très agréable. Ça reste quand même un produit chimique fondamental. Pour nous, c'est un dérivé microscopique, microbien. Hein. Mais c'est vrai que le trichlos reste un produit très, très demandé. Pour le nettoyage des pièces, d'une part en textile, c'est bien connu, en métallurgie, ça l'est beaucoup moins. C'est un grand nettoyeur.
On va prendre une dernière question ici.
Je n'ai pas complètement compris le procédé. Vous mettez du naphtha en haut, vous récupérez un peu d'éthylène en bas et beaucoup d'autres choses, dont vous avez dit que vous les séparez. Mais après, vous vendez ces produits ou vous les remettez en haut de la colonne?
Alors, si on part d'un produit relativement simple, comme il y en a beaucoup au Moyen-Orient, c'est-à-dire de l'éthane, celui qui est le plus simple, l'éthane. L'éthane, vous l'avez reconnu tous, c'est celui-là. On peut concevoir, comme il a 2 carbones noirs et 6 hydrogènes blancs, qu'il va donner facilement 2 carbones noirs et seulement 4 hydrogènes. Vous voyez qu'on a fait une autre liaison. Celui-là, il est assez simple à traiter. Il donne peu de sous-produits. Il donne de l'hydrogène qu'on va récupérer. Il donne du méthane qu'on va brûler dans les fours. Et il donne principalement de l'éthylène. Plus on va prendre un produit lourd, c'est-à-dire une essence ou un gasoil, plus à la sortie des fours, on va faire une palette de produits issus des fours qui sont très intéressants. Je les ai signalés indirectement quand j'ai dit polyéthylène, plastique, polypropylène, ça viendra également d'une charge un petit peu plus lourde, styrène, benzène, butadienne. Plus ce qu'on va mettre dans le gros four est un produit à densité élevée, soit une essence, soit un naphtha, soit un fuel oil, soit un gasoil, soit une charge lourde, presque un bitume, plus on va faire à la sortie une palette de produits chimiques extrêmement large, qui va être très intéressante à récupérer. Plus ce qu'on appelle l'alimentation dans l'unité d'éthylène est lourde, c'est-à-dire c'est un liquide de plus en plus lourd, plus on va faire de produits dérivés intéressants, plus ça va coûter cher, parce qu'il faudra les séparer. On va donc faire des produits, ce qu'on appelle en C4, les butadiennes, qui vont donner des caoutchoucs. On va faire des produits dits aromatiques, les benzènes, les xylènes, qui vont donner des plastiques, etc., qu'on va devoir séparer. Donc plus qu'on va rentrer dans ces gros fours est une densité lourde, est une charge lourde, plus on va faire de produits chimiques à la sortie variés. Je ne me suis pas expliqué sur tout ce qu'on pouvait sortir, mais on peut sortir des masses et des masses de produits très différents.
Bien. Michel Buffenoir, merci beaucoup.